Aujourd'hui, nous recevrons Arlène Amar-Israël. Arlène Amar-Israël est née en 1947. Elle est physicienne de formation, notamment au service d'aéronomie, où elle était spécialiste des milieux interplanétaires et des planètes. Actuellement, elle est déléguée adjointe pour un service qui s'appelle Études et Exploration Espace, qui est au CNES, au Centre National d'Études Spatiales, où elle est responsable du programme d'utilisation de la station spatiale, dont elle va largement nous parler aujourd'hui. Elle est également responsable des sciences micro-pesanteurs. Elle est déléguée française au conseil directeur de l'ESA, qui est l'agence spatiale européenne, et spécialiste, elle est responsable des vols habités et des programmes de micro-pesanteurs. Elle est également présidente du conseil européen de l'utilisation de la station à l'agence spatiale européenne. Elle participe à de nombreuses conférences internationales et elle a également écrit dans de nombreux articles dans des revues internationales. Voilà. Arlène Amar-Israël, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi pourra suivre un débat d'une vingtaine de minutes avec le public. Je vous remercie.
Bonjour mesdames et messieurs, je vous présenterai donc une conférence sur l'homme dans l'espace, les vols habités. Depuis longtemps, les vols habités, et bien avant de pouvoir être réalisés, ont occupé une large place dans l'imaginaire collectif et individuel. Alors que les activités spatiales ont chaque jour plus d'importance dans la vie de tous les jours, la participation aux vols habités est sujet à controverse. Surtout, et cela est bien naturel, avant le moment qui précède la décision, compte tenu du coût très important de ces missions. Aujourd'hui, la Station spatiale internationale est en cours de réalisation et son exploitation va mobiliser pendant des années les moyens de la plupart des grandes agences spatiales. Dans ce contexte, l'utilisation de cette infrastructure orbitale a une importance particulière. Et je me propose aujourd'hui de vous montrer, à travers des exemples concrets, quels sont les enjeux de ce grand programme. Alors, mon exposé se compose de trois parties. Tout d'abord, je ferai une description de l'environnement spatial, qui est particulièrement hostile à l'homme et qu'on a peu à peu apprivoisé depuis 40 ans que l'on fait ces missions. Je parlerai ensuite de la conquête spatiale. Ça sera un bref rappel parce que vous connaissez tous les grandes étapes de cette épopée, pour me concentrer sur la Station spatiale internationale qui est le grand programme de vol habité auquel participent la plupart des pays en ce moment. J'esquisserai également le futur, puisqu'on commence à étudier le programme qui succédera à la station spatiale, et ce sera probablement l'envoi d'un homme sur Mars, ou d'un équipage de plusieurs personnes sur Mars. Enfin, dans une dernière partie, je me concentrerai sur les enjeux scientifiques de ces missions, et je tenterai de vous montrer comment on peut en déduire des applications importante sur Terre, en particulier dans le domaine de la santé. Alors, l'espace est donc un environnement très hostile et les hommes, quand l'on voit dans l'espace, rencontrent des problèmes qui sont liés d'une part à l'espace, qui sont spécifiques, et par ailleurs, ils peuvent, surtout pour des missions de longue durée, avoir des maladies qu'il est important de prévoir au sol et de soigner par télémédecine. Donc c'est un point très important pour les missions de longue durée. Ce qui caractérise le séjour en micro-pesanteur, et je vais y revenir longuement, c'est l'absence de pesanteur, que l'on appelle couramment la micro-pesanteur, parce que c'est pas complètement nul. Le confinement et l'isolement dans ces stations qui a des conséquences importantes au niveau psychologique, surtout pour les missions actuelles où les équipages sont assez nombreux, internationaux, et donc c'est des problèmes qu'il faut étudier soigneusement, que l'on rencontre dans les sous-marins ou dans les plateformes pétrolières et qui nécessitent un suivi très particulier. Enfin, l'espace, c'est aussi des radiations. La micro-pesanteur, c'est la caractéristique la plus spectaculaire du milieu spatial. Ça, je voudrais souligner deux points importants. C'est à la fois un outil pour la recherche fondamentale et appliquée dans différents domaines comme la physique, la chimie, la biologie, la physiologie. Et c'est des conditions qu'on ne peut pas reproduire au sol. C'est également un paramètre très important de l'environnement spatial dont il faut maîtriser les conséquences pour la vie et le travail à bord et dont il faut s'accommoder dans la conception et l'amélioration des systèmes spatiaux que sont les fusées ou les satellites. Alors, l'astronaute est protégé dans son vaisseau et lorsqu'il fait des sorties extravéhiculaires, ici on voit Jean-Pierre Aigneret qui a effectué l'année dernière une sortie extravéhiculaire à bord de Mir. Et lors de ces sorties, les astronautes, bien qu'ils sont protégés par leur scaphandre, car sinon ils seraient exposés au vide spatial et surtout à des températures extrêmes qui s'étalent de moins 150 à 150 degrés. Donc c'est vraiment un milieu difficile et qu'il faut apprivoiser. Les conditions d'accélération sont aussi très sévères. Au moment du lancement, 3 à 5 fois la gravité. Et au retour, 4 fois la gravité pour la navette spatiale et 8 pour les véhicules soviétiques, russes. Pardon. Donc c'est vraiment des conditions fortes auxquelles il faudra s'entraîner. Et il y a un programme d'entraînement extrêmement important pour permettre aux astronautes d'encaisser toutes ces contraintes. Alors, un des problèmes que l'on redoutait le plus, c'était les troubles du système cardiovasculaire quand on envoyait des hommes dans l'espace. La micro-pesanteur qui supprime la pression hydrostatique entraîne très rapidement une redistribution des liquides qui est illustrée dans le schéma que l'on voit ici. Là, c'est au sol. Et dès l'arrivée dans l'espace et l'installation de la micro-pesanteur, on voit que les liquides remontent vers le thorax et le cerveau. Et le cerveau comprend qu'il y a trop plein de fluides, il les évacue, et ce qui entraîne des perturbations, des modifications de la circulation veineuse et de la tension artérielle. Et donc il y a au sol, on voit ici, des risques assez importants, de syncope. Après une semaine en vol, on considère qu'environ 10 à 15% des fluides ont été évacués et ça entraîne une déshydratation. Alors, pour lutter contre ces problèmes, on a trouvé des moyens assez rapidement et qui sont de plus en plus sophistiqués. Il y a bien entendu des exercices physiques sur tapis roulant et vélo ergomètre. Également, on donne aux astronautes des vêtements de contrainte qu'ils vont porter pendant le vol. Ils passent de temps en temps dans un caisson pour se reconditionner. Et enfin, ils prennent de l'eau salée avant le retour. Donc, c'est des problèmes que l'on arrive assez bien à dominer aujourd'hui, mais qui sont relativement importants. La micro-pesanteur était également responsable des troubles du système neurosensoriel. Ce sont des troubles que l'on retrouve également dans différents moyens de transport et auxquels sont sujets beaucoup d'astronautes. On a maintenant trouvé des techniques qui sont toujours un peu compliquées à expliquer pour dominer ces problèmes, parce que les astronautes, quand on voit dans l'espace, ont évidemment un programme scientifique à exécuter, et il est important qu'ils soient très rapidement en pleine maîtrise de leurs moyens. Pour les chercheurs, s'ouvre un domaine important là, puisque ça permet d'étudier les processus de perception et d'action dans l'espace, et également l'étude de la plasticité du système nerveux. Enfin, je parlerai également de problèmes qui s'installent sur une durée plus longue, c'est-à-dire qui ne concernent pas les vols courts dans l'espace, mais il s'agit là de diminution des contraintes mécaniques qui entraînent, pour des vols donc de longue durée, une perte de densité osseuse et une atrophie du tissu musculaire. Alors, on voit sur les graphiques que cette perte, qui représente environ 10% de la masse osseuse en un mois, est extrêmement rapide. Elle est équivalente à une perte du même type qui est constatée sur Terre sur une période de 10 ans pour une personne âgée de 50 à 60 ans. Alors, c'est important de comprendre ces mécanismes parce que, je vous rassure tout de suite, dans l'espace, ils sont réversibles. C'est-à-dire que les astronautes, quand ils reviennent sur Terre, et compte tenu des différentes mesures prophylactiques qui sont pendant le vol et qu'ils continuent en revenant sur Terre, ils reviennent à des masses plus normales. Et donc, il est extrêmement important d'étudier ce mécanisme parce qu'on voit qu'il peut y avoir des applications, en particulier dans le problème de l'ostéoporose qui frappe un nombre important d'individus, en particulier de femmes. Alors, un autre problème que l'on rencontre dans l'espace, ce sont les radiations. Et là, il y a deux niveaux. Pour les missions qui sont en orbite basse, c'est-à-dire entre 300 et 400 km, c'est à peu près l'altitude à laquelle se trouve la navette ou se trouve la station Mir, les risques sont relativement faibles. Ça a été mesuré. Et pour un vol de courte durée, on a constaté que les doses étaient inférieures à celles reçues par les astronautes quand ils faisaient leur visite médicale pendant leur entraînement. Donc ce sont des doses tout à fait supportables. Simplement, il y a des précautions à prendre en période d'éruption solaire. Et là, il ne faut pas entreprendre de sortie extravéhiculaire parce que ça serait trop dangereux. Et également, il vaut mieux se réfugier dans les parties blindées de la station qui ont été aménagées justement pour pouvoir fournir une protection. Alors, pour les missions que l'on envisage et qui ont eu lieu, les missions sur la Lune ou sur Mars, où là, on est à l'extérieur de la magnétosphère, où le champ magnétique terrestre nous protège des radiations, les risques sont extrêmement importants. Ils sont liés au rayonnement cosmique et puis aux éruptions solaires. Et là, des études sont en cours actuellement pour montrer comment on va prendre en compte ce paramètre, parce que ça entraîne des contraintes sur les véhicules, donc il faudra là aussi aménager des parties blindées, mais de façon raisonnable pour ne pas avoir une station trop lourde qu'on ne pourrait pas lancer. Donc des contraintes sur l'aménagement du véhicule. Il faudra également augmenter le réseau de surveillance solaire. On étudie aujourd'hui, on a un réseau au sol qui permet de prévoir ces éruptions solaires, mais il faudra l'augmenter de façon beaucoup plus significative pour avoir des doses très précises. Et puis enfin, il faudra choisir le calendrier et l'équipage soigneusement en fonction de ce problème. Alors, pour affronter tous les problèmes que je viens de signaler, un entraînement important et nécessaire pour ces astronautes. Et là, vous voyez, enfin, il y a deux parties dans la préparation des astronautes. Il y a une partie qui est l'entraînement au sol. Et là, cet entraînement dure environ 2-3 ans. Donc, c'est des professionnels. On ne peut pas aller dans l'espace du jour au lendemain. Il faut une préparation très poussée, à la fois technique et théorique, sur le vaisseau spatial. C'est la première partie sur les différentes étapes du vol. Ensuite, il faut apprendre sur le simulateur de la station ou de la navette à manipuler les différents systèmes, les systèmes de support vie en particulier. Et enfin, il faut être capable de réaliser le programme scientifique et expérimental dont la mission est confiée à l'astronaute. Donc cet entraînement qui est très important dure 6 mois et il est en général, 3 ans, 6 mois la première partie, 1 an la deuxième partie et puis le reste étant sur la préparation de la mission et de la familiarisation avec les expériences. Alors cet entraînement en général se fait à la Cité des Étoiles, là c'est un équipement de la Cité des Étoiles à Houston pour les parties pratiques, et puis quand c'est une mission française à Toulouse au Centre National d'Études Spatiales pour le programme des expériences. Une autre partie de son entraînement concerne la préparation médicale et psychologique qui est extrêmement importante. L'astronaute doit être en bonne santé physiologique et psychologique pour résister à toutes les contraintes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et étant en bonne santé, il se prépare à encaisser toutes les contraintes qu'il va avoir pendant le vol. Et là, il y a des moyens importants qui sont à la Cité des Étoiles ou à Houston. La centrifugeuse que l'on voit ici permet de pouvoir se familiariser avec les accélérations extrêmement importantes que l'on a au départ et au retour. Il y a également différents moyens pour s'habituer aux problèmes rencontrés à cause de la micro-pesanteur, comme la table basculante pour les problèmes de cardiovasculaire ou le tabouret tournant pour les problèmes du neurosensoriel. Également, il y a une possibilité intéressante, c'est d'effectuer des vols paraboliques où là, pendant quelques secondes, on est en micro-pesanteur et donc ça permet d'avoir expérimenté cet état avant d'aller dans l'espace. Alors, la vie dans l'espace est très organisée. Artificiellement, les journées sont de 24 heures pour pouvoir être synchronisées avec les équipes qui sont au sol et puis pour respecter les rythmes biologiques des astronautes. Parce que, comme vous le savez probablement, à cette altitude, à 300-400 km, l'orbite est d'une heure et demie et on voit le soleil se coucher et se lever 16 fois. Donc, on a gardé la journée terrestre. Il y a des problèmes spécifiques liés à la nourriture. C'est des choses que l'on voit souvent et qui sont spectaculaires. Il est nécessaire d'emporter une nourriture et qui soit dans un conditionnement très précis. Et évidemment, l'hygiène doit être très contrôlée pour la bonne santé des astronautes qui ne doivent pas être malades à bord. Le conditionnement tient surtout compte du fait qu'il ne faut pas que les aliments se répandent dans la station. Et donc, on appuie au point différents aliments, comme le pain sans miettes ou les aliments gélifiés. Je pense que ce sont des choses qui, en général, intéressent beaucoup et qui ont vraiment été mis au point pour l'espace. Comment se passe une journée dans la station? Théoriquement, c'est les 3-8, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de loisirs. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait ça. On les fait beaucoup travailler, nos astronautes, et ils ont en général des journées très très longues. Quelquefois, ils s'en plaignent, mais ils ont un programme à exécuter. Souvent, il peut arriver de rencontrer des problèmes techniques, donc ils peuvent se coucher très très tard pour résoudre ces problèmes, et c'est la vie. Les astronautes, en fait, leurs activités diffèrent selon leur spécialité. Il y a trois types d'astronautes. Ceux qui sont responsables du système de transport spatial, c'est en général le commandant de bord. C'est lui qui est responsable des techniques d'amarrage, de rendez-vous et de façon générale de la station. Les spécialistes de mission, qui sont plus spécialisés dans la maintenance de la station et tout le travail qu'il faut faire pour la maintenir en bon état de fonctionnement. Et puis, ce qu'on appelle le spécialiste expérimentateur, c'est celui qui va réaliser donc, la mission expérimentale qu'on lui a confiée. Alors, on voit ici Claudie André-Dé, vous la voyez, ouais. Lors de sa mission Cassiopée, qui a eu lieu en 1996 sur Mir, et qui est là en train de faire des expériences à partir de l'instrument Physiolab, qui est un instrument d'études cardiovasculaires. Enfin, pour terminer, je dirais quelques mots sur la sortie extravéhiculaire. C'est un événement extrêmement important dans ces missions. C'est probablement ce qui demande le plus de difficultés aux astronautes. On en fait quand vraiment c'est nécessaire. Hein. C'est pas une promenade de santé. C'est vraiment pour aller à l'extérieur de la station et soit y accrocher l'expérience ou la retirer, soit réparer des systèmes. Alors, ces sorties, en général, elles durent au maximum 6 heures et elles nécessitent une préparation d'une quinzaine de jours avant pour être en condition physique suffisante. Et la récupération, après, est longue. Parce que les scaphandres sont semi-rigides et tous les gestes à effectuer sont extrêmement difficiles et nécessitent d'avoir été vus en piscine avant pour être sûr de pouvoir les exécuter dans les quelques heures que dure cette sortie. Alors quand on le voit, c'est de très belles images, mais c'est vraiment la partie la plus difficile du vol spatial. Alors, je ne voudrais pas quand même que vous croyiez que l'espace, ça se résume à tous ces problèmes que je viens d'évoquer. J'ai commencé par là, ça j'en suis débarrassée, parce que ces problèmes, bon, ils sont, si on peut dire, un peu terre à terre, mais la conquête spatiale, ça a été vraiment, et c'est toujours, c'est une épopée, et dont je vais maintenant rappeler les grandes étapes. Les pionniers, oui, l'espace, c'est une aventure assez récente. Les grands pionniers de l'espace, c'est début du siècle. Donc c'est vraiment une aventure assez récente. Alors il y a eu d'abord, ça a été un rêve, et les pionniers d'espace, c'était avant tout des visionnaires. Je n'ai pas le temps de parler de tous ceux qui sont là, je vous les montre simplement, mais je dirais quelques mots de Konstantin Tsiolkovsky, qui est un instituteur soviétique, qui s'est passionné pour l'astronautique et qui est responsable de beaucoup de percées extrêmement importantes. Il a d'une part inventé la fusée à propergole liquide, mais surtout, il a associé l'avenir de l'homme à la conquête de l'espace. Et dès 1920, il avait imaginé les schémas sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire une conquête spatiale qui se fait à partir de stations spatiales, de navettes. Et il a même pensé à l'exploration de l'espace interplanétaire. Donc ces pionniers, il y avait donc Tsiolkovsky en Union soviétique, Il y avait également Godard aux États-Unis, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est responsable du premier lancement de fusée. En Allemagne, Hermann Oberth, qui a fondé la Société des voyages interplanétaires. Et enfin, il y avait aussi en France Robert Esnault-Pelterry, qui a été responsable de la première encyclopédie sur l'astronautique et qui était à la fois pilote et ingénieur et qui a fait beaucoup pour les débuts de l'espace. Alors, je n'aurai pas le temps de parler plus de ce point, mais je voulais simplement montrer que dès les années 20, on avait déjà trouvé des solutions à ces rêves humains de se propulser dans l'espace et d'aller explorer des nouveaux mondes. J'aborde maintenant la course à l'espace, et je vais aller très très vite, pour dire que là aussi, des hommes très importants ont aidé à la création de toute cette astronautique. Et en Union soviétique, c'est Sergueï Korolev qui a mis au point la fameuse fusée Semyorka R7 qui, grâce à des améliorations successives, mais toujours à partir du même principe, a permis le lancement du premier satellite artificiel autour de la Terre en 57, certains d'entre vous s'en souviennent certainement, suivi quelques mois après de l'envoi d'une chienne Laïka, de la chienne Laïka à bord de Spoutnik, et enfin suivi par le lancement du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en 1961. Alors, c'est à ce moment-là que l'humanité est rentrée dans l'ère de l'espace et les deux grandes puissances qu'était l'Union soviétique à l'époque et que sont les États-Unis se sont lancées dans une compétition acharnée dans l'espace sur fond de guerre froide. Alors, aux États-Unis, où ils s'étaient retrouvés après la guerre, Wernher von Braun va mettre au point la fusée Jupiter qui va permettre, très peu de mois après Spoutnik 1, de mettre à poste le premier satellite scientifique, Explorer 1, ce satellite qui découvrira les ceintures de Van Allen. Enfin, à la même époque, quelques mois plus tard, la NASA est créée et prend en charge le programme spatial américain. Alors, un mois après le lancement de Yuri Gagarin, le président John Kennedy engage la nation américaine dans la conquête de la Lune et, dans un discours extrêmement célèbre, il promet avant 10 ans l'envoi d'un homme. On voit ici donc promesse tenue avant la fin de la décennie. On voit ici Armstrong qui pose son pied sur la Lune. Alors, ce qui est peut-être moins connu, c'est que ce programme, il a été décidé. Ça a été un engagement sans précédent en période civile. Et l'objectif était très lié au contexte politique. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que, en fait, ce programme, il était encore plus ambitieux que ce qu'il a été, et que les trois dernières missions qui étaient les plus intéressantes sur le plan scientifique n'ont pas eu lieu, puisque le programme, pour des raisons budgétaires, a été arrêté par le président Nixon. C'est important parce que finalement, ces décisions se font pour des raisons politiques et quelquefois on oublie un peu les autres raisons qui sont importantes. Alors je montre ici la mission Apollo 17. Qui a été la dernière mission du programme Apollo. Une des caractéristiques intéressantes de cette mission, c'est que l'astronaute était un géologue. C'était la première fois qu'on envoyait vraiment un astronaute, un scientifique, parce qu'on pensait que c'était lui qui était le plus à même de réaliser bien la mission. Et ce n'est pas étonnant de savoir que c'est au cours de cette mission que la moisson scientifique a été la plus importante, parce que le géologue savait choisir les échantillons qu'il devait ramener, pouvait dire dans quel contexte ils avaient été ramassés, et pouvait interpréter aussi toutes les activités géologiques du site auquel ces échantillons avaient été pris. Donc là, on voit l'importance de la spécialité de l'astronaute et le fait que, pour ces missions et les suivantes, les objectifs scientifiques de la mission avaient une place très importante. Alors, dans les années 70, je vais vite parce que je suis en 70, mais il faut que j'arrive à 2000, la course à la Lune fait place à l'occupation de l'orbite basse. Et là, les stations spatiales américaines, c'est la station Skylab, le premier laboratoire scientifique en orbite, et puis les stations Salyut, avec lesquelles les Russes vont inaugurer leur occupation permanente de l'orbite basse à 300 km. Il faut signaler aussi à cette période la mission commune Apollo-Soyouz, qui a lieu en 1975, qui montre une certaine détente sur le plan politique. Et également, c'est la première mission où Américains et Russes travaillent ensemble. Je crois que pour la station, ça sera important. Depuis, de l'ordre de un peu moins de 400 astronautes, c'est un chiffre important, un peu moins de 400 astronautes et cosmonautes ont séjourné dans l'espace et réalisé des missions scientifiques et techniques, et donc apporté énormément de résultats sur lesquels une communauté scientifique internationale nombreuse travaille. Alors aujourd'hui, quels sont les systèmes russes et américains qui existent ? Depuis 20 ans, les Américains et les Russes ont exploité deux voies qui sont complètement différentes. Aux États-Unis, c'est la navette américaine qui a été développée. C'est un avion spatial, comme vous le savez, réutilisable, capable de réaliser des missions de courte durée, environ 3 semaines, quand il est équipé d'un laboratoire comme le Space Lab, qui permet de faire des expériences scientifiques. Il est possible également de lancer à partir de la navette des charges extrêmement lourdes qu'on ne peut pas lancer par des lanceurs de type conventionnel, et par exemple le télescope Hubble ou le télescope Chandra d'études d'Ariane X ont été lancés à partir de la navette spatiale. Alors les Russes ont choisi un système complètement différent. C'est l'ensemble lanceur Soyouz, capsule Soyouz et station Mir qui est en orbite depuis 14 ans, qu'on va bientôt déorbiter. Cette déorbitation est annoncée depuis un an et pour l'instant, elle n'a pas lieu. Cette station Mir, elle a permis aux Russes d'occuper de façon permanente l'espace et d'effectuer des expériences de longue durée. En particulier, on se rappellera que le médecin Valérie Polyakov a passé 14 mois dans la station et donc a démontré qu'un homme pouvait rester longtemps dans l'espace. 14 mois. Enfin, il y a eu récemment un programme Shuttle Mir où les deux moyens se sont rejoints. Et ça a permis d'une part aux Américains et aux Russes de travailler ensemble dans la préparation de la station spatiale. Et également, ça a permis aux Américains de faire des expériences de longue durée dans l'espace, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avec la navette, puisque je vous ai dit que c'est un système qui permettait des missions au maximum de 3 semaines. Alors, j'arrive enfin à la Station Spatiale Internationale. C'est le grand programme en ce moment et qui va durer jusqu'en 2015. Donc, c'est un programme extrêmement important. Je crois qu'il faut bien rappeler que la Station Spatiale Internationale, Elle a été décidée pour des raisons essentiellement politiques. C'est une coopération internationale de très grande ampleur, dominée par les États-Unis, qui en ont le plus grand rôle, avec la Russie, le Japon, l'Europe et le Canada. Récemment, l'Ukraine et le Brésil se sont associés à un titre moins élevé à la réalisation de cette station. Alors, c'est un laboratoire multidisciplinaire de longue durée. Il va rester 15 ans dans l'espace et il sera occupé de façon permanente par un équipage international de 7 personnes. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça a été également décidé pour soutenir l'industrie spatiale. Boeing est maître d'œuvre de la station. Enfin, ça prépare les missions d'exploration du système solaire, même si ce n'est pas un point de passage obligé. C'est essentiellement vu comme un moyen de travailler ensemble et d'expérimenter la durée dans l'espace. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de cette station ? Son altitude, comme toutes les stations spatiales, c'est autour de 400 km. Elle a une inclinaison qui est compatible avec les lancements de Baïkonour et de Houston, puisqu'il faut énormément de lancements pour construire la station dans son ensemble. Il en faudra de l'ordre de 60 à 70. Ses dimensions sont très importantes, 100 mètres par 74, et une masse de 400 tonnes, un peu plus de 400 tonnes. Ça fait à peu près 3 fois la station Mir, pour donner un ordre de grandeur. Le premier équipage de la station va partir à la fin du mois, et à partir donc du 30 octobre, 1er novembre, cette station sera équipée de façon permanente, avec 3 personnes au début. Le premier équipage, ce sera 2 Russes et 1 Américain, et en régime de croisière, je dirais, par 7 personnes. La station spatiale existe. L'assemblage a démarré en 1998. Il y a actuellement 3 systèmes de la station en orbite. Et aujourd'hui, donc, elle peut accueillir un équipage. Elle a tous les systèmes nécessaires à l'accueil d'équipage. La fin d'assemblage est prévue en 2006. Et les partenaires de la station se sont engagés à la faire fonctionner jusqu'en 2015. Alors, brièvement, à quoi elle ressemble, cette station ? Voilà, vous l'avez peut-être déjà vue. Donc, c'est un objet de très grande dimension, comme je l'ai montré tout à l'heure. Il y a des parties externes, une grande poutre qui relie tous les différents systèmes, les panneaux solaires et tous les modules. Donc, il y a des parties exposées à l'extérieur où on met des expériences, on en voit ici. Et puis, l'important, ce sont les modules pressurisés dans lesquels on peut vivre et travailler. Alors, cette partie-là, c'est la partie russe, qui ressemble à Mir. Les modules sont très proches. Et c'est cette partie-là qui est actuellement dans l'espace. Ici, on voit le laboratoire américain, qui est le module de vie principal et où se feront la plupart des expériences de physique, parce que la gravité là est la meilleure. Ici, on a le laboratoire japonais avec une plateforme qui permet de mettre des expériences à l'extérieur. Et voilà le laboratoire européen dont je vais parler tout à l'heure, Columbus, qui est la contribution de l'Europe à la station. Alors, cette participation européenne, elle a été décidée en 1995 par le Conseil de l'Agence spatiale européenne et elle comprend le laboratoire Columbus que je viens de vous montrer. Elle comprend également un véhicule de transfert automatique qui s'appelle ATV, qui sera lancé par Ariane 5 et qui va permettre d'envoyer sur la station 9 tonnes de charge utile. Il pourra également la desservir. Vous savez que le problème dans les stations, c'est d'évacuer du matériel dont on ne veut plus, enfin les déchets. Et donc l'ATV, après avoir emporté du matériel, va repartir avec une charge utile, des déchets, et se consumera dans l'atmosphère avec. Il est prévu de lancer 9 ATV pendant la durée de la station, à chaque fois pour amener du matériel à bord et pour évacuer les déchets. Il y a également la définition d'un véhicule de sauvetage qui viendra remplacer le véhicule Soyouz. Et enfin, important, un corps d'astronautes européens qui a été créé au moment de la station spatiale et qui regroupe les corps nationaux d'astronautes. Alors, en France, par exemple, le CNES avait des astronautes et maintenant, ces astronautes ont rejoint l'ESA pour participer à ces missions de la Station spatiale internationale. Et dans ce corps de 16 astronautes européens, il y a 4 Français. Alors, pour terminer avec la station, je veux juste montrer l'intérieur du laboratoire européen Columbus, dans lequel on voit les astronautes travailler. Là, ce sont donc des armoires standards dans lesquelles on va implanter les expériences scientifiques. Alors, il y en a 2 pour les sciences de la vie prévues aujourd'hui et 2 pour les sciences de la matière, qui sont développés en même temps que le laboratoire Columbus et qui voleront avec lui. Le lancement du laboratoire Columbus est prévu en octobre 2004. Alors, après la station, on regarde déjà plus loin, alors qu'elle commence à peine à exister, mais ça, c'est le propre des grands programmes. Et on se préoccupe aujourd'hui de l'étape suivante qui sera probablement l'homme sur Mars. Alors j'espère qu'on le verra, parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui est évidemment extrêmement coûteuse, mais qui paraît réalisable avec les moyens actuels ou qui sont disponibles actuellement, puisqu'on pense que c'est possible, à condition que les décisions soient prises dans pas trop longtemps, à l'horizon 2020. Alors, pourquoi Mars ? Parce que c'est d'abord un objectif majeur de la connaissance. La planète Mars, c'est une planète de type terrestre. Donc, l'étude de sa géologie, de sa climatologie permet de renseigner sur des étapes précédentes et ultérieures sur la Terre. Donc, ça en fait un objectif majeur. Mais également, comme vous le savez tous, ça permet aussi de donner des indications sur les origines de la vie, puisqu'on pense que sur Mars, on peut trouver des formes. Il est possible de trouver des formes très préliminaires de vie. Donc, deux grands objectifs scientifiques. C'est un programme dans lequel la complémentarité entre les moyens robotiques et l'homme paraissent indispensables, parce que ça nécessite toute une série de missions bien avant pour pouvoir mieux préparer cette exploration de Mars. Je vais simplement vous montrer un exemple de mission qui est étudiée à l'heure actuelle à la NASA, mais des études sont aussi faites en Europe. Et il y a un projet qui est assez séduisant, dont l'origine est Robert Zubrin, qui est un ingénieur qui avait travaillé à la NASA. Et donc, sur ce projet qui s'appelle Mars Direct, les premières études ont démarré. C'est une mission qui pourrait durer 30 mois, si on compte 6 mois aller, 6 mois retour, et puis entre un an et demi et deux sur la planète. Le principe de base de cette mission, c'est de déposer avant l'envoi d'hommes, 2 ans avant, puisqu'il y a une fenêtre de lancement sur Mars tous les 2 ans, un véhicule avec son usine à propergol. Ce qui est très difficile de Mars, c'est de décoller. C'est plus difficile que de la Lune parce que la planète est plus importante. Et donc l'idée de ce projet, c'est d'embarquer de l'hydrogène et de fabriquer avec le gaz carbonique atmosphérique de Mars du méthane et de l'oxygène qui permettront le décollage de Mars. Donc, c'est pas futuriste. Les premiers tests de faisabilité vont être réalisés lors des prochaines missions martiennes pour la mise au point de ce système qui, si marchait, permettrait de concevoir un programme d'exploration martien assez rapidement. Alors, je vais passer maintenant à la dernière partie de mon exposé, qui sont quels sont les grands enjeux scientifiques de ces missions et quelles sont les applications que l'on peut transférer sur Terre. Parce que c'est une des grandes préoccupations à l'heure actuelle dans le spatial, c'est le transfert vers des applications de type terrestre. Alors, j'ai choisi quelques exemples. Un exemple scientifique, tout d'abord, c'est probablement un des meilleurs exemples de la complémentarité entre les missions automatiques et les missions habitées. Il s'agit du télescope spatial Hubble, qui a été lancé par la navette spatiale, comme j'ai dit tout à l'heure, et dont la durée de vie prévue est de 20 ans. Alors, c'est vraiment une mission de tout premier ordre pour étudier l'univers lointain, les quasars, les planètes. Quasiment toute l'astronomie peut être étudiée à partir du télescope Hubble. Au niveau des résultats, c'est la plus exceptionnelle mission spatiale qui ait jamais eu lieu. 2400 publications, c'est sans précédent, en 10 ans de fonctionnement. Et ce niveau exceptionnel, il a été établi parce que l'homme a pu réparer les défauts qui ont eu lieu à l'origine. Et puis, il y a plusieurs missions de maintenance qui permet de changer les optiques, de changer les calculateurs et d'arriver au niveau de la mission Hubble actuellement. Cette mission est encore prévue pour 10 ans, puisque j'avais dit qu'elle devait durer pendant 20 ans. Et la prochaine mission de maintenance est prévue l'année prochaine. Donc là, on a vraiment un exemple où la complémentarité de ces missions est manifeste. Je voulais dire quelques mots aussi d'une mission scientifique qui a eu lieu l'année dernière à bord de la station Mir et qui a été réalisée par Jean-Pierre Aigneret pour montrer un peu le type d'expérience scientifique qu'on fait à bord de ces missions. Donc c'était la 7e mission franco-russe, on en a fait beaucoup au CNES. Vous vous rappelez, la première, c'était avec Jean-Loup Chrétien, qui a été le premier Français dans l'espace en 82. Et là, donc en 99, c'est Jean-Pierre Aigneret qui est resté très longtemps dans l'espace, il est resté 188 jours. C'est un record, c'est l'astronaute non-russe qui a passé le plus longtemps dans l'espace. Il a pu exécuter un programme européen, puisqu'on avait invité aussi l'Europe à participer au programme expérimental, et très pluridisciplinaire, je vais le montrer tout à l'heure. Il exécutait à la fois des missions d'ingénieur de bord et d'expérimentateur. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait plusieurs fonctions, mais lui, il en a fait deux. Il était à la fois ingénieur de bord et expérimentateur, et il a également effectué une sortie extravéhiculaire. Alors, au cours de cette mission, on a fait beaucoup d'expériences scientifiques. On en a fait aussi on a fait aussi des expériences technologiques. Je ne les ai pas mentionnées là parce que pour des questions de temps, et également des expériences pédagogiques. C'est très important au cours de ces missions de faire participer des lycées, des jeunes, pour pouvoir c'est un très bon soutien pour les découvertes de la physique et pour leur montrer ce type de projet. Donc, au niveau scientifique, plusieurs domaines explorés, les sciences de la vie, avec des expériences qui étudient tous les systèmes cardiovasculaires, sensorimoteurs, le système de l'os, tous les endroits où la micro-pesanteur amène des problèmes, mais où il est important de comprendre les phénomènes et faire des expériences fondamentales. Il y avait également une expérience sur la biologie du développement, l'expérience Genesis, où on a étudié le rôle de la gravité dans la croissance et la structuration de la matière vivante. On a embarqué des pleurodèles et les stades de fécondation et de développement ont été observés. Également, il y a eu des expériences en sciences de la matière avec ALICE 2, qui est un laboratoire de physique des fluides, et une expérience pour l'étude des alliages mécaniques. Enfin, en particulier, on a utilisé le fait qu'il était possible de faire des sorties dans l'espace pour installer à l'extérieur une expérience qui s'appelle Comet, qui a permis la récupération en orbite de grains cométaires. Et on a également réalisé une expérience dite exobiologie, qui consistait à exposer à l'espace des échantillons biologiques pour voir leur réaction essayer de comprendre les premiers stades de formation. Alors, ça vous donne une idée du type d'expérience que l'on réalise au cours de ces missions. Et on prévoit, comme cette mission a duré très longtemps, on prévoit un colloque international à Lyon en mars 2001, où tous ces résultats qui ont été réalisés au cours de cette mission seront présentés, en même temps qu'on parlera de l'ensemble des expérimentations qui a eu lieu sur MIR ces dernières années. Enfin, je vais rappeler je vais parler du programme français d'utilisation de la station. Donc, cette station en orbite, on se prévoit de l'utiliser, évidemment. Je vous rappelle que la contribution de la France à ce programme est extrêmement importante. C'est 27% de la contribution européenne, donc c'est plus du quart des dépenses faites en Europe sur ce programme. Et donc, on a un programme important d'utilisation qui est prévu. Alors, il y a deux axes majeurs. Les sciences de la micro-pesanteur sur la partie pressurisée de la station. Donc là, on développe des expériences, en plus des expériences européennes, qui vont équiper le laboratoire Columbus pour l'expérience Cardiolab, qui étudie la physiologie cardiovasculaire, et un laboratoire pour l'étude des fluides critiques qui sera installé dans le laboratoire américain. On prévoit également de développer des expériences de physique fondamentale, c'est relativement nouveau, et de physique solaire. Alors, je vais dire quelques mots de l'expérience qui comprend une horloge atomique, l'horloge atomique Pharao, parce que c'est probablement une des expériences les plus ambitieuses de la station spatiale. C'est donc une expérience française qui est une horloge atomique par refroidissement d'atomes, une horloge césium. C'est actuellement l'horloge atomique la plus précise au monde. Elle est développée par l'École normale supérieure, le laboratoire de Cohen-Teduggi, qui a eu le prix Nobel sur les atomes froids, que vous avez sûrement eu d'ailleurs à vos conférences. Donc, une horloge atomique extrêmement précise. Et la caractéristique de cette horloge, c'est qu'en micro-pesanteur, sa stabilité est encore améliorée, c'est-à-dire qu'elle gagne encore en précision. Et cette mission qui s'appelle ESSIS, Atomic Clock Ensemble in Space, permettra donc d'embarquer cette horloge Pharao, extrêmement précise, de la comparer à la matière à hydrogène qui est à bord pour bien être sûr de ses performances, et puis par transfert de temps par lien laser, de la comparer avec des horloges qui est au sol. On attend des retombées majeures de ce type d'expérience dans le domaine de la métrologie du temps et des fréquences, mais également ça pourrait équiper dans le futur les systèmes de navigation. Donc il y a des applications extrêmement importantes derrière cette expérience. Et donc une expérience française qui est notre priorité dans l'utilisation de la station. Je vais parler également, puisque je parle des enjeux scientifiques et aussi des transferts vers la médecine, de tout ce qui est fait pour améliorer la vie des gens sur Terre à partir de ce qu'on a appris dans l'espace. Donc, d'une part, il y a des transferts de connaissances pures sur les phénomènes que j'ai décrits tout à l'heure, la déminéralisation osseuse, la régulation cardiovasculaire, l'atrophie musculaire. Également, pour ces missions spatiales, on a développé une instrumentation très miniaturisée, non-invasive et extrêmement fiable, puisque là, on n'a pas le droit à l'erreur. Et cette instrumentation, je vais vous donner des exemples. Ensuite, une fois qu'elle est développée, on l'a utilisée sur Terre. Également, pour le suivi de la santé des astronautes, parce qu'il faut, vraiment qu'il n'y ait aucun problème dans l'espace, on a mis au point des techniques de téléassistance pour le diagnostic et le traitement qui sont aujourd'hui utilisées et qui vont être développées dans ce qu'on appelle la télémédecine. C'est extrêmement important quand on est dans des régions reculées, mais c'est également un axe très important de recherche pour la téléassistance des personnes âgées. Alors, quelles sont les retombées industrielles que l'on a de ces missions? J'ai donné quelques exemples. Aux États-Unis, c'est un marché qui a été évalué à 7 milliards de francs par an. Donc, c'est considérable. Je donne les exemples les plus connus. Par exemple, le Holter, c'est l'enregistrement en continu pendant 24 heures de l'électrocardiogramme. C'est un instrument qui a été mis au point pour les missions sur Skylab et qui, aujourd'hui, équipe absolument tous les cabinets de cardiologues et se trouve dans tous les hôpitaux. Il y a également la pompe à insuline qui a été mise au point pour surveiller les animaux dans l'espace et qui sert beaucoup pour les diabétiques. En France, on a un marché aussi important. Il y a eu des PME qui ont été créées pour industrialiser les instruments que le CNES a mis au point dans l'espace. Là, c'est un marché qui représente quand même 60 millions de francs par an. Donc, c'est un marché aussi important. Je donne ici un peu la liste de types d'instruments que toutes ces PME développent à Tours, à Toulouse, toute la France. Donc, des sondes ultrasonores, des dosimètres, et ça a des applications médicales dans différents domaines. Alors, je reviens maintenant, pour terminer, parce que je crois qu'il est temps de conclure, à la Station Spatiale Internationale. J'espère avoir montré qu'on avait beaucoup accompli en 40 ans, parce que finalement, ça ne fait que 40 ans que les vols habités existent. Les sciences de la micro-pesanteur, maintenant, elles ont fait la preuve de leur maturité. On ne parle plus des usines orbitales à rentabilité immédiate, comme on l'a fait à certains moments, mais on retient l'importance du transfert des connaissances acquises vers les applications terrestres, comme l'amélioration de la santé, ce que j'ai tenté de vous montrer. Alors, l'exploitation de cette station, elle va bientôt commencer, et on recherche de nouvelles directions. Des domaines scientifiques nouveaux comme la physique fondamentale, j'en ai donné un exemple tout à l'heure avec la mission ESSIS. On recherche de nouvelles applications et surtout, il y a aussi des tentatives de trouver des utilisations non conventionnelles de l'espace, comme par exemple le multimédia ou l'éducation. L'éducation, c'est un thème qui est particulièrement encouragé aujourd'hui dans les agences spatiales parce que finalement, c'est rare de trouver des projets qui unissent à la fois des performances technologiques, des progrès scientifiques et qui permettent aussi de donner la dimension du rêve qu'on retrouve dans l'espace. Merci.
Merci, madame, pour cette très belle présentation. Par contre, il me semble que vous n'avez pas du tout donné d'ordre de grandeurs économiques. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près l'investissement consenti pour la station européenne, en prenant comme unité de mesure, par exemple, le trou du Crédit Lyonnais Et d'autre part, est-ce que, puisque nous revenons tous de vacances, est-ce que vous pouvez chiffrer à peu près, dans cet hôtel à 5 milliards d'étoiles, quel est le coût de la journée?
Alors, le trou du Crédit Lyonnais, je ne suis pas capable de répondre parce que je ne connais pas le chiffre. Je peux vous dire l'estimation du coût de la station. C'est une estimation parce qu'on connaît bien les dépenses qui sont faites en Europe, on connaît bien les dépenses qui sont faites aux États-Unis, on a plus de mal pour ce qui se passe en Russie où là, on a des estimations. Globalement, pour le développement de la station et son exploitation pendant les 10 ans après la fin de l'assemblage, ce projet est estimé à 100 milliards de dollars.
Une question là. Oui.
Bonjour madame. Excusez-moi. Le projet Apollo 11 n'a pas eu lieu le 20 septembre 1969, mais le 20 juillet.
Ah.
Je ne sais pas. Je sais pas
oui, souvenir, oui, c'est en juillet. Oui, c'est en juillet.
Ouais, je voulais à ce propos vous demander une chose. Qu'est-ce que font maintenant les astronomes? Il y a eu Armstrong, il y a eu Collins. Il ne faut pas oublier Collins, le pauvre pigeon qui était resté dans le, dans, dans l'habitacle d'Apollo. C'est lui qui a tourné autour de la Lune. Ouais. On a oublié son nom. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là?
On sait ce que deviennent les pionniers. Pour les autres, c'est plus difficile parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont plus de 400. Hein. C'est un corps qui commence à être assez nombreux, les astronautes. Alors, John Glenn, qui était le premier Américain dans l'espace, il a revolé. Je peux difficilement répondre à la question parce qu'il y a beaucoup d'astronautes. Souvent, ils restent plusieurs années à la NASA. Il y en a un qui s'est trouvé à la tête de la NASA à un moment. Ils peuvent aussi diriger des grosses industries. Ça s'est beaucoup trouvé pour les astronautes américains. Ils ont un parcours, chaque parcours est individuel et c'est assez difficile de répondre à votre question. En France, on a un corps qui... donc maintenant, il y a 4 astronautes qui ont rejoint le corps européen, mais quand on avait un corps national, il y avait 8 astronautes. Alors, il y en a 4 qui ont rejoint le corps européen. Les autres ont tenté une reconversion. Patrick Baudry travaille dans l'industrie. Jean-Loup Chrétien est maintenant à la retraite, mais il est aux États-Unis et il continue à s'entraîner. Jean-Jacques Favier est maintenant rentré au CNES. Donc chacun a un parcours très individuel. Très individuel.
Une question là-haut, monsieur. Oui. Levez-vous.
Voilà, je suis là. Je voulais revenir sur le coup de la station internationale. Avoir votre avis, je crois qu'il y a une certaine controverse sur le prix qui, au départ, le coût total qui, au départ, avait été évalué dans les années 80, et puis qui a été, je crois, multiplié par un facteur non négligeable, donc le coût a augmenté. La mise en œuvre aussi de la station a pris beaucoup de retard en raison de problèmes techniques, peut-être, et puis ce qui se passe en Russie, on a beaucoup, comme vous le disiez, de mal à savoir précisément comment ce qui va se passer. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que je crois que même certaines personnes arrivent parfois à se poser la question sur la rentabilité de ceci, vu l'explosion des coûts et du délai que ça a pris.
Alors, c'est vrai que les coûts de la station ont augmenté, comme c'est le cas de la plupart des grands programmes. Aujourd'hui, ils sont stabilisés parce que la plupart des laboratoires ont été construits. Donc, le matériel existe aujourd'hui et son coût est bien maîtrisé. Il se monte à l'heure actuelle, pour la partie américaine, à une somme d'environ 20 milliards de dollars. Le reste étant sur la partie exploitation, beaucoup de lancements. Alors, il y a quand même un moyen de contrôler ces coûts. C'est que la station que je vous ai montrée, on l'appelait le mécano de l'espace, c'est une station qui comprend plusieurs parties. Aujourd'hui, c'est les organes vitaux qui ont été lancés. Hein. Toute la partie module de service qui permet donc de donner toutes les ressources à la station. On peut toujours, s'il y a trop de dépassement de coûts, la rendre plus petite. On peut supprimer un laboratoire. Mais c'est une station qui est viable aujourd'hui, qui permet de recevoir des équipages et dont les coûts sont à peu près maîtrisés puisqu'elle existe. On est simplement en phase de construction, mais la plupart des éléments existent.
Madame, là, sur le côté. Levez-vous.
Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si l'entraînement des femmes astronautes était strictement semblable à celui des hommes.
Alors, je n'ai pas participé à de l'entraînement, mais d'après ce que je crois connaître, il n'a pas de raison d'être différent. Il n'a pas de raison d'être différent.
On passe une question là-haut, monsieur, oui.
Madame, merci pour votre intervention. Vous avez évoqué le corps des astronautes européens et d'autre part la montée en puissance des scientifiques. J'aurais voulu savoir quelles étaient les perspectives donc de... pour ces astronautes européens et les futurs recrutements et les futurs profils de carrière des astronautes pour les 15 ans à venir.
Alors aujourd'hui, je vois où vous voulez en venir. aujourd'hui, il a fallu intégrer les astronautes nationaux, c'est-à-dire qu'il y en avait en France, en Allemagne et en Italie. Donc ça a été la majeure partie du recrutement. Également, vous savez comment est l'Europe, il n'y a pas que les grands pays, donc il a fallu également intégrer des astronautes qui étaient dans ce qu'on appelle les petits pays, la Suisse, la Suède, la Norvège. Aujourd'hui, ce corps est complet, donc 16 personnes, il y a 4 Français, 4 Italiens, 4 Allemands et puis 4 de différents pays. On prévoit néanmoins que par le biais du vieillissement du corps ou par le fait que des astronomes peuvent avoir envie de changer d'activité, qu'il y ait des possibilités de recrutement dans environ 3-4 ans. À ce moment-là, l'Agence spatiale européenne lancera un appel d'offres. Mais il y a le problème des nationalités. Au niveau français, on en a déjà 4. Je ne veux pas vous décourager. Mais au niveau français, on en a déjà 4. Et il y en a un actuellement qui s'appelle Philippe Perrin, qui n'est pas intégré dans le corps des astronautes, mais qui s'entraîne à Houston, qui est un astronaute jeune, et qui attend de prendre la place de quelqu'un qui s'en va. Donc, alors, on est en train de discuter avec les Russes pour voir s'il était possible, en complément des opportunités de vol que l'Europe a aujourd'hui, parce que ça représente à peu près 1 à 2 astronautes par an, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme les opportunités. Il y aura 1 à 2 astronautes européens par an qui va voler pendant toute la station. Donc on est en train de discuter avec les Russes pour voir si on pouvait augmenter ces possibilités en faisant une coopération avec eux du type de celle qu'on a sur Mir, c'est-à-dire que dans leurs 3, ils ont droit à 3 astronautes sur 7, eh bien on puisse, à la place d'un Russe, avoir un astronaute français européen. C'est des discussions qui sont en cours, qui permettraient donc d'augmenter les opportunités de vol et peut-être donc de faire rentrer des nouveaux entrants.
Une question là. Monsieur, levez-vous.
Vous avez mentionné sur vos transparents des niveaux d'accélération à l'atterrissage et au décollage variant de 3,5 à 8 G. Ce que j'aimerais savoir, c'est pendant quelle durée on peut soumettre un corps humain, par exemple, à 8 G. Ça paraît très, très important.
C'est très important. Ça dure, ouais. Ça dure quelques minutes. Je crois que c'est ça la réponse. Quelques minutes.
Quelques minutes, pas davantage.
Non. Oui. C'est déjà énorme.
Bah oui,
surtout
énorme.
Que les 8 G, c'est au retour, à un moment où le corps est déconditionné, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à cause des problèmes cardiovasculaires. Et donc, c'est extrêmement, extrêmement important. Extrêmement important. Et moi, je n'ai pas vu, par exemple, Jean-Pierre Ayuré, qui avait passé 6 mois dans l'espace à son retour sur Terre. Je crois qu'il était un petit peu secoué. Un petit peu secoué. Ils mettent quelques heures avant de reprendre leur souffle. C'est pour ça qu'on a besoin d'un entraînement extrêmement, extrêmement sérieux. Et la sélection, je n'ai pas parlé de la sélection, mais la sélection est extrêmement rigoureuse. J'ai moi-même participé à un comité de sélection en 1985, à l'époque où le CNES était dans la perspective d'Hermès et avait ouvert un appel à sélection d'astronautes. On avait reçu, c'était en 85, on avait reçu 1000 réponses. C'est énorme, il y a vraiment un engouement pour ce rôle. Et à partir des 1000 réponses qu'on avait eues, on avait sélectionné 30 personnes et on leur avait fait subir le tabouret, enfin beaucoup de problèmes liés à l'entraînement, mais on leur avait également, il y avait des entretiens psychologiques. C'est vraiment, il y avait eu au moins 6 mois de différentes étapes avant d'arriver à un choix. Et en finale, on avait choisi Claudie André-Déhé, Jean-Jacques Favier, les astronautes qui volent aujourd'hui. C'est presque... Pour passer toutes ces étapes et supporter ces contraintes, c'est presque des surhommes. C'est vraiment des gens qui ont la tête et les jambes.
Une dernière question, madame.
Bonjour, madame. La question que je voulais vous poser, c'est... Pour travailler en multinationalité comme cela, est-ce que ça ne pose pas des problèmes particuliers ? Bon, sûrement, mais est-ce que ça se passe bien ? Et parmi les choix d'expérience qui sont retenus, est-ce que toutes les équipes savent vraiment, enfin, savent l'ensemble des domaines sur lesquels travaillent les autres équipes. Je veux dire, est-ce que, bon, les Français, vous nous avez détaillé effectivement les travaux qui ont pu être faits, les retombées que ça a pu avoir, mais est-ce qu'il y a vraiment bon, une transparence sur l'ensemble où chaque équipe travaille un petit peu dans son coin et en fonction des budgets dont qu'elle a, etc. Ouais.
C'est intéressant les questions que vous avez posées. Alors, il y a d'abord le fait d'avoir des équipages internationaux. C'était la première question. Alors, ça a été difficile. Ça a été difficile et je crois que le CNES, qui a réalisé beaucoup de missions avec les Russes, s'y est très bien pris parce qu'on a beaucoup insisté sur l'apprentissage de la langue. Il fallait apprendre le russe. Parce que c'était sur les missions MIR, c'est la langue qui est employée. Et les Américains n'ont pas réagi de la même. Dans les missions au Shuttle MIR qui ont eu lieu récemment, les premiers Américains qui ont été envoyés dans l'espace ont eu beaucoup de problèmes d'adaptation parce qu'ils ne connaissaient pas bien la langue et ils n'avaient pas passé suffisamment de temps à la Cité des Étoiles pour comprendre la façon dont ce monde fonctionnait. Donc ces problèmes-là sont extrêmement importants. Et pour la suite des missions, il y a vraiment des psychologues, des sociologues qui se penchent sur ces problèmes parce que c'est des missions de longue durée et c'est très difficile de vivre ensemble dans un milieu confiné, isolé et en plus de ne pas parler la même langue. Donc c'est vraiment des problèmes qui sont pris très sérieusement. Alors pour les expériences, ce n'est pas les astronautes qui se préoccupent des programmes des expériences. Eux, ils exécutent les tâches qu'on leur a demandé de faire. Ils les comprennent, c'est vraiment des gens au niveau intellectuel, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas eux qui choisissent les expériences, ils réalisent ce qu'on leur demande de faire. Par contre, il existe au niveau international des structures importantes pour éviter que dans ces stations, il y ait des expériences qui soient faites en double. Donc, c'est très, très bien organisé, la sélection des expériences et le fait qu'il y ait une coordination pour avoir des programmes scientifiques complets et qui sont exécutés avec l'ensemble des partenaires, qu'ils soient japonais, américains. C'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Très très bien.
Arlène Amar-Israël, je vous remercie.